Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine un petit peu plus, surtout que le printemps arrive et il se met à faire chaud. Nous avons une grosse journée à analyser dans cet épisode. Nous sommes à 8 jours seulement déjà de WrestleMania. Nous sommes à Montréal, c'est le Raw du 15 avril 2018 et c'est la première étape du fameux Superstar Shake-Up annuel. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements, mais du côté de Catch Up, on ne change pas les équipes qui gagnent. Je suis Raphaël au commentaire et je suis en duo avec, vous l'aurez deviné, l'ami Chris. Ça va Chris ?
Salut Rapha, salut peuple de Catch Up. Un Catch Up Check-Up, ça va secouer grave ou pas, ou il faudra voir.
Et oui, et comme tout le monde, hein, peut-être que nous aussi c'est notre dernier soir à Raw et peut-être qu'on sera demain à SmackDown, qui sait ?
On va être drafté peut-être.
Peut-être, écoutez le podcast sur SmackDown qui viendra, vous verrez si c'est nos voix. Vous en rendrez vite compte, je pense. Eh ben écoute, puisqu'on est dans une soirée de shake-up, de changement, un énorme segment qui commence qu'on n'a jamais vu, Stephanie McMahon et Shane McMahon ouvrent la soirée. Incroyable, n'est-ce pas ?
Fantastique, la famille McMahon continue à prendre le pouvoir.
Voilà, c'est vraiment un fresh start comme on nous avait promis il y a quelques mois. Donc, c'était Stephanie qui arrivait en premier, elle annonce Shane. Shane, lui, continue à réclamer une annonce très démonstrative de la part de l'annonceur, donc best in the world. Mais comme on est à Montréal, Shane tient à le dire lui-même en français. Alors, il commence à dire des meilleurs au monde qui sont très, très mauvais. Il parle pas bien français, hein, Shane, on est d'accord ?
Très mal français. Pour trois mots, il aurait pu faire un effort de phonétique quand même et d'apprentissage pour trois mots, franchement.
Alors après, il a dit qu'il parlait le vrai bon français de Paris. Moi, je ne suis pas parisien, je ne sais pas, mais...
Écoute, je ne suis pas parisien, je suis un francilien, moi, mais...
On ne dit pas ça.
Mais on ne dit pas ça, non.
Non.
Pas avec cet accent-là. Enfin, je crois qu'aucune région de France ne s'est sentie concernée par ce qu'a dit Shane McMahon.
Je crois même que le public de Montréal n'a pas compris au début qu'il essayait de parler en français, en fait.
Oui, tout simplement, oui. Je crois que le public est resté d'ailleurs assez stoïque pendant ce truc-là en se disant « voilà ».
Ouais. Donc, meilleur au monde, bref. Shane en profite pour nous remontrer des images de lui en train d'humilier le père du Miz. Hein. On est toujours sur cette histoire, mais tout d'un coup, surgit du néant. Et ben, qui donc ? Le Miz, lui-même, arrive et débarque le premier transfert officiel de Raw depuis SmackDown. Il arrive avec une chaise, il commence à se fighter contre Shane. Finalement, le fils McMahon réussit à s'enfuir et le Miz est au milieu du ring. Il tient sa chaise, il est couvert de sang, il a réussi à se faire saigner, j'ai pas trop compris comment. Et le public est à fond derrière lui. Donc Miz est à Raw, il est populaire, ça marche. Une première bonne pioche, content de cette arrivée, de ce segment, Chris ?
Le segment lui-même, pas tellement. Je t'avoue que Shane McMahon, j'ai plus trop envie de le voir.
Ben oui.
Et je pensais pas qu'il allait à nouveau s'investir dans une feud physique. Je pensais que ça y est, c'était fini, l'histoire Miz-Shane, qu'on allait passer à autre chose. Alors je suis content que le Miz, par contre, y en a Raw. C'est une bonne chose, l'un des meilleurs heels qui est passé face, mais qui reste bon pour l'instant. Mais il faut lui donner un autre programme au Miz. Absolument, absolument, absolument. J'espère, si tu veux, que ça va s'arrêter assez vite, cette histoire avec Shane McMahon. Sinon, oui. Pour le coup, bah voilà une première bonne recrue dans ce check-up et l'arrivée du Miz, je vois ça avec plaisir pour Raw.
Ouais, alors moi, par rapport à ce que tu viens de dire, je peux me tromper, mais je pense vraiment qu'ils ont choisi cet angle-là pour avoir la vraie pop du Miz en arrivant à Raw, mais que dès la semaine prochaine, on va. Je pense pas que cette feud continue, mais peut-être. On verra. Après tout, Shane, il est plutôt SmackDown, mais c'est vrai qu'il peut être Interbrand. Je suis pas sûr d'avoir envie, comme toi, que ça se poursuive encore longtemps cette histoire.
Ouais.
Mais je suis curieux de voir comment on peut booker le Miz, continuer de le faire face sans Shane, ça va être intéressant à suivre.
Ouais, l'évolution du Miz va être intéressante à Raw. Ça va être un bon indicateur. Il est bon au micro et à Raw, ça manque un peu de mecs qui étaient forts au micro, donc c'est bien d'avoir un catcheur qui est fort au micro qui arrive dans le vaisseau amiral.
Tout à fait. Et d'ailleurs. On ne perd pas de temps, on nous annonce direct notre main event, alors on ressort un peu les vieilles recettes, puisqu'on aura un tag team à 6, on aura Baron Corbin, McIntyre et Bobby Lashley ensemble, donc le côté des heels, contre Roman Reigns et Seth Rollins, mais avec un partenaire pour le moment qui est mystère, on n'en saura pas plus. Mais on continue sur cette histoire de tag team. Alors ce coup-ci, le premier match de la soirée, ils sont même 8, ils sont beaucoup. Côté gentil, on retrouve les champions, les nouveaux champions d'Euro, Zack Ryder et Kurt Hawkins, avec Ricochet et Aleister Black. Est-ce qu'ils sont fixés vraiment à Raw ou est-ce qu'on les verra le lendemain à SmackDown ? Non. Pas trop encore, mais en tout cas, ils affrontent...
C'est hein, normalement.
Pardon, c'est fait, normalement ?
Ils ont été annoncés comme membres d'Euro. Hein.
D'accord, très bien. Pas...
Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Ils ont été annoncés membres d'Euro, tous les deux.
Ok, bon, ben, t'as sûrement raison. Alors, j'ai peut-être juste raté l'info. Donc voilà, Ricochet...
J'ai la liste de l'intégration à Raw, là.
Ah, très bien. Officiel.
You just made the list. Et il y a donc bien Aleister Black et Ricochet qui apparaissent dans le roster de Raw.
Et ils sont pas les seuls à l'issue de ce match, puisque en face, ils affrontent donc Revival et deux garçons que le public de Raw ne connaît pas, puisqu'ils arrivent tout droit de NXT. Ce sont même les champions par équipe de NXT, les War Riders. Et non. Ce soir, ils n'ont pas la ceinture de champion d'NXT, donc c'est même pas mentionné hein, de mémoire. Et ils s'appellent les Viking Experience.
Voilà.
Donc on a tout changé chez ces deux mecs. Ils ont même changé leur prénom. Alors, j'ai pas trop noté. Ils s'appelaient Hansen et puis maintenant, ils s'appellent Eric ou je sais pas quoi.
Ouais, ouais. Là, ils s'appellent Ivar et Eric. Ivar et Eric.
Voilà. Mais petit dent, t'es très complémentaire. Merci, Chris. Et du coup, bon, ouais. Bah... bon alors pour passer rapidement sur le match, et ben justement c'est cette équipe nordique qui fait sensation, qui va permettre la victoire. Ils vont tous les deux réussir à porter le tombé sur Zack Ryder, donc le champion actuel est pas vraiment apparaît pas vraiment en très grande forme, et du coup ben les Revival se retrouvent vainqueurs aussi par Ricochet, c'est le cas de le dire, de ce match. Alors bon, déjà là comme tu l'as dit, on confirme Ricochet et Black ensemble. En équipe, à Raw, on a cette montée des champions actuels de NXT, avec une sorte de repackaging, on oublie un peu leur nom, on oublie leur ceinture, et c'est pas un peu bizarre tout ça ?
Ouais, écoute, franchement, là, je t'avoue que bah voilà le premier moment où je me suis dit « Ah, mais là, je comprends pas !» Alors, si tu veux, c'était assez étrange. Ce changement de nom, enfin il y a tout ce que tu as dit, le changement de nom, la non-existence de la ceinture NXT Tag Team. Est-ce qu'ils sont mis complètement, est-ce qu'ils intègrent, alors ils font partie de la liste, hein, de la fameuse liste, mais c'est vachement surprenant, ils sont toujours champions NXT, donc comment ça va être géré cette affaire ? Je suis curieux, je suis un peu surpris du repackaging du nom, et carrément des noms des catcheurs, et carrément du nom de leur team. The Viking Experience, bon, ok, mais les War Riders, ça marchait bien auprès du public, il y avait ce cri du public, le War, qui était...
Bah ouais.
Qui y a eu, là. Mais c'était pas pareil, c'était un peu étrange. Après, le combat en lui-même, le catch pur, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé ce petit match de tag team, si on se plaint souvent de la tag team division, mais pour le coup, c'était plutôt pas mal avec un... Avec, bah, en fait, les War Raiders n'ont pas changé leur set pour autant. Hein. Ils nous ont fait du War Raiders dans le ring. Et moi, je trouve qu'ils en voient, hein, tous les deux. Hein.
Ouais.
Donc, face à un Ricochet, Black, tout ça, qui était en déficit, Ryder Hawkins, qui est en déficit de powerhouse là, hein, par rapport à ces deux-là. Hein. Plus Roller des Revival, bah, ça a donné un match pas très long, mais relativement fun.
Ouais. C'était sympa, effectivement. Alors pour ceux donc qui connaissaient pas les Viking Experience, mais c'est vrai que moi je trouve le nom vraiment pas très joli, dans le sens où, comme tu l'as dit, on sait pas trop comment ça va, comment scander un nom ou autre. Le War Rider, ça marchait pas mal. N'hésitez pas à aller voir donc leur dernier match à Takeover, hein, contre Ricochet et Black, justement. Alors, ils avaient aussi fait une grosse performance dans le dernier War Games, justement, de cet hiver. Donc c'est ces deux gars qui envoient surtout celui qui s'appelait Hansen. Alors du coup, je sais plus si c'est Ivar ou Eric, là, mais le gros barbu, ils sont pas mal. Hein.
Ils sont pas mal, mais moi, j'aime bien. Hein. J'avoue que moi, je suis plutôt client des War Raiders, quoi.
Voilà, donc si on nous dessine quelque part une sorte de scène tag team de Raw, là, bon, on imagine que Ryder et Hawkins, ça va être peut-être temporaire, mais ça a de la gueule, déjà, rien qu'avec ces trois... Bon, Ricochet Black, on sait qu'on aimerait les voir plus loin, mais pour quelques mois, pourquoi pas, quoi.
On est sur des bases déjà meilleures que la saison passée, quoi.
Ben oui.
Donc, On est dans la saison 36, hein, WrestleMania saison 36, donc du coup, et bah, au deuxième round qui suit derrière, au moins là, on a eu un match tag team un peu digne de ce nom dans le show rouge.
Oui, tu fais bien de le dire, je crois que j'ai oublié de le préciser, puisque c'était dans l'entrée, hein, c'est Stéphanie qui a dit ça, qui nous a dit que ben on était en train de se lancer dans la saison pour WrestleMania 36, donc... Voilà, ça y est, maintenant la WWE assume que la seule chose qui compte, c'est WrestleMania et qu'on prépare déjà l'année prochaine, une année qui se passera donc à Tampa Bay, le prochain WrestleMania, avec une sorte de clip très Pirates des Caraïbes.
Bon, Pirates des Caraïbes, ouais.
Complètement, ouais.
Et en honneur aussi aux Tampa Bay Buccaneers. Il y a un gros clin d'œil à l'équipe de NFL aussi.
D'accord, ça je ne savais pas, vois-tu.
Donc voilà, tout ce logo WrestleMania 36 est lancé. Donc du coup, la saison est lancée et on nous envoie un check-up dès le mois d'avril.
Ouais, au moins comme ça, on est vraiment dans la thématique nouvelle saison, quoi, c'est sûr.
Voilà, c'est pas mal.
À ce sujet, bah, on nous annonce un nouvel arrivant à Monday Night Raw qui vient de 205, c'est Cédric Alexander. Donc ça y est, on officialise là aussi que 205 est un peu comme NXT ou SmackDown, hein, c'est une division à part entière qu'on peut changer de show. Bon, est-ce que... ça va marcher aussi bien que Ali pour Alexander, d'après toi ?
Bah écoute, Alexander, c'est un babyface, classiquement, quoi. Donc il est bon dans le ring. Moi, franchement, je le trouve très bon dans le ring. Je l'ai vu en live à Paris et j'avais été bien, bien embarqué par ce gars-là en live. Et du coup, je lui donne pas mal de crédit depuis. Tu sais, des fois, c'est un peu con. On va en live event et puis on prend d'affection un mec parce que finalement, on l'a vu en vrai et qu'on s'est rendu compte que... Ah ouais, il envoie. Donc, c'est bien qu'Alexander, il envoie dans le ring. Après, il n'a pas une grande personnalité, quoi. Et il est très souriant un peu à la Finn Bálor. Mais écoute, s'il va être utilisé comme Ali, maintenant, il faut monter du cruiserweight. Donc, écoute, ils assument le fait de monter des cruiserweight. On parle aussi qu'il y aurait peut-être Buddy Murphy qui ne tarderait pas à arriver dans le main roster, qui n'est pas vraiment un cruiserweight, en fait, en réalité, lui, d'ailleurs.
Oui.
Mais si tu veux, donc, écoute, moi, je t'avoue que dans un premier temps, je ne sais pas trop quel rôle va avoir Cédric Alexander dans tout ce bazar, mais dans les cordes, il est spectaculaire. Au moins, même s'il a des matchs courts, il devrait envoyer un peu... la sauce.
Ouais, c'est un bon catcheur, ça c'est sûr. Après, faut voir comment ça se gère cette histoire des 205 qui plonge. Moi, c'est ce que j'avais toujours. Enfin, moi, je suis pas un spectateur de 205 et j'ai toujours préféré le mélange des genres à une division spéciale sur un type de physique. Donc, à voir, ça peut m'intéresser. Mais c'est que ça va donner un équilibre un peu bizarre, je pense. 205, en gros, c'est ceux qui ont été très bons à 205 qui vont être récompensés. Par Montero,
ouais. C'est vrai qu'Alexander, il a été champion Cruiserweight un long moment. Tu vois, quoi, le gars, ça doit faire 2-3 ans qu'il est à 205 live. Voilà, je pense qu'il est arrivé un peu au bout d'un cycle. Apparemment, ils lui font confiance. Donc, ils lui font confiance parce que déjà, ils savent que le in-ring est solide. Après, c'est ce que je te dis. Hein, moi, mon avis, c'est que son personnage est vachement léger. Donc, il faudra voir au milieu de cette guerre que se livrent à Raw les lutteurs. On verra comment il installera sa place là-dedans. Quand tu vois qu'un Ali, finalement, à SmackDown, c'est bien installé.
C'est ouais. Bien.
Donc si Ali est capable de... Et Ali et Alexander ont énormément feudé l'un contre l'autre.
C'est vrai. Donc,
écoute, pourquoi Cédric Alexander, il n'arriverait peut-être pas à se sortir un temps d'antenne comme se le fait Ali ? À voir.
À voir. T'as raison. On va laisser le bénéfice du doute pour les premières montées de les premières arrivées de Arrow hein, ce soir. Alors on n'a pas fini. D'ailleurs on n'a fait que commencer. On enchaîne avec l'arrivée du champion intercontinental, donc Finn Bálor, et tout d'un coup une musique latino qui retentit. Zelina Vega et Andrade débarquent à Arrow. Zelina Vega se présente. Elle arrive avec donc El Idolo. Elle nous parle un peu en français. Elle aussi, elle nous sort un joli Mesdames et Messieurs. Andrade sort un très beau Merci. Ça, c'est... Il parle mieux que Shane, hein, ces deux-là en français. Hein.
Ouais, ça va. Ils n'ont pas dit beaucoup de mots non plus, donc ça va.
Non, je suis d'accord. D'ailleurs, Andrade, il enchaîne en espagnol. Hein, c'est sa langue. Alors, bon, il le provoque un peu. Hein, il lui dit qu'il va le battre, qu'il va le ridiculiser. Et on enchaîne sur un match. Donc. Après Sami Zayn, Finn Bálor, cette semaine, affronte Andrade. C'est un joli, Jolie suite. Bon, là, la ceinture n'est pas en jeu hein, ce soir. Et heureusement pour Finn Balor, parce qu'on a quand même un vraiment beau match, moi, j'ai trouvé, avec pas mal de parades, beaucoup de pirouettes d'Andrade, pas mal de vis aussi. À un moment, il utilise Zelina Vega comme un bouclier humain à l'extérieur du ring pour ensuite faire tomber Finn Balor qui était sur l'arrêt du ring. Il y a un joli dropkick de Balor. Il va devoir essayer le coup de grâce et à deux fois, il va le rater. Il va passer à côté. Andrade réussit à l'éviter. Balor, à un moment donné, va passer par-dessus la troisième corde, tombe sur Andrade. Hein, il réussit son saut. Mais Andrade remonte péniblement sur le ring et pendant que l'arbitre se questionne sur le sort du pauvre Latino, Zelina Vega fait un Hurricane Rana à Finn Balor qui ne s'en remettra pas puisqu'ensuite Andrade le saisit, le remet sur le ring et lui porte son Hammerlock DDT pour la victoire. Andrade fait des gros débuts à Raw. Belle montée là aussi, content de voir Andrade à ce niveau-là.
Belle recrue, alors là moi je suis hyper satisfait. Zelina Vega, c'est Hurricane Rana qui est place à Baylor quand même. Nowhere, moi j'ai assez halluciné avec ça. J'ai trouvé ça très bon. Alors là, j'ai trouvé un très bon match. Mais de toute façon, Andrade, j'aime bien. Finn Balor, enfin, dans une vraie belle feud pour le titre intercontinental, ça me fait plaisir. Donc là, moi, si tu veux, j'achète. Hein. Finn Balor versus Andrade, j'achète, je prends. Voilà, ça c'est bon, c'est entériné. Voilà, pas de problème. Ils ont eu un ou deux passages un peu. C'est la première fois qu'ils s'affrontaient de toute façon. Donc,
ouais.
Ils s'étaient pas croisés, donc c'était pas la même époque pour les deux, la même période pour les deux. Donc il y a eu un ou deux moments un petit peu de mésentente dans le match, mais globalement le match est bon hein, par rapport à la moyenne de Raw, encore une fois.
Voilà un bon match, un contre un quoi.
Avec une manageuse qui sert à quelque chose, qui est fourbe, qui est là, qui est présente et moi j'aime bien. Alors là franchement j'adhère. Hein. De toute façon j'adhère à Andrade depuis NXT, j'ai adhéré à SmackDown. Je regrettais même qu'il n'ait pas eu encore de toucher d'or. Mais Arrow, ça va être un excellent heal. Un excellent heal. Donc, c'est une très bonne pioche de la part de Arrow sur SmackDown.
Ouais, parce que je pense, j'y suis en train de penser, mais je pense qu'il était monté depuis NXT, justement, sûrement l'an dernier, juste après Mania. Donc, il a passé un an à SmackDown à pas faire grand-chose, comme tu l'as dit, pas toucher de ceinture. Il a surtout aligné en fait les matchs de gala. Je me souviens qu'il avait dû affronter des gars comme AJ Styles, Daniel Bryan, Jeff Hardy.
Il a catché tout le monde à SmackDown, en fait.
Ouais, c'est ça. Ben...
Et il a eu quelques shots pour le titre US, dans des matchs à plusieurs.
Ah oui, quand il a créé Mysterio, ouais, t'as raison.
Dans des matchs à plusieurs, il a eu quelques shots. Donc non. Et puis Andrade, il a fait toujours une bonne impression. Ses performances à SmackDown, elles étaient bonnes. À chaque fois, on disait, ouais, les matchs étaient bons. Tu vois, il envoie dans le ring. Et puis, la WWE, elle a besoin d'un Latino fort.
Ouais. Là, il est...
Rey Mysterio est un vétéran. Andrade, c'est l'avenir.
Ouais, je pense aussi, ouais. Alors, 1-2, tu m'entends, Chris ?
Ouais, je t'entends, ouais, tout à fait.
Ah oui, j'avais cru qu'il y avait une coupure, excuse-moi. On passe à la suite. Donc, ce coup-ci, au milieu du ring, nous avons Elias. Elias qui commence à nous jouer quelques notes d'une triste marche funèbre, une musique que nous connaissons bien, puisque c'est la musique d'entrée aussi du légendaire Undertaker. Et justement, Elias, il nous dit que sa musique, elle a quand même, en une semaine, elle a fait revenir John Cena, qui était complètement disparu, et l'Undertaker, qu'on croyait lui aussi parti entre les morts. Alors c'est quand même... C'est vrai que c'est flatteur hein, pour lui. Il nous dit que si ces mecs-là sont revenus, c'est parce qu'ils ont senti en lui quelque chose en plus, et ils ont senti surtout que WWE, ça veut dire « Walk with Elias ». Il en profite pour lâcher une nouvelle attaque sur le basket. C'est une histoire de play-off. Alors peut-être que tu as un peu mieux compris que...
Le NHL.
Pardon ?
C'était pas la NBA, c'était la NHL. Il fait, il fait une référence en fait aux Canadiens de Montréal.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Les Canadiens de Montréal, si tu veux, ils sont dans une lose totale. Et pour la troisième année consécutive, ils viennent de ne pas se qualifier pour les play-offs de NHL. Si tu veux, c'est un club qui a, pour faire un peu d'histoire, vite fait, les Canadiens de Montréal, c'est une équipe qui a 24 titres Mais le problème, c'est que les derniers titres ont été gagnés il y a des années et des années et des années. Je crois que le dernier titre des Canadiens de Montréal date de 1993, exactement.
Ah oui, d'accord.
Et voilà, et donc bah, la vanne, il est fort pour ça. Elias, à Seattle, il l'avait fait avec les Sonics pour la NBA. Et puis bah, là, à Montréal, il a placé les Canadiens. Quoi.
Ouais, mais ça.
Tu voulais avoir de la hit avec le public de Montréal, et bah voilà, fallait balancer sur les Canadiens.
Ah bah ça a énormément marché. Hein. Là encore, il a eu beaucoup, beaucoup de mal ensuite à parler, tellement il y a eu des huées.
Une hit presque aussi forte qu'à Seattle, d'ailleurs.
Ouais.
Parce que pour moi, celle de Seattle avec Kevin Owens avait été l'une des plus hallucinantes de 2018.
Ah, elle avait été monstrueuse.
Mais celle de lundi soir était quand même particulièrement velue.
Ouais, elle a juste duré un petit peu moins longtemps puisqu'on a vite enchaîné. Il y a quelqu'un qui est encore venu interrompre Elias. C'était Rey Mysterio dont on venait de parler. Rey Mysterio arrive à toute vitesse. Bon, il s'attaque à Elias. Malheureusement, il botche assez sévèrement une prise là sur les cordes, sur la troisième corde. Il a failli se casser la gueule, mais bon, tout le monde a fait comme s'il n'avait rien vu. Les commentateurs, ouais, tout ça, il envoie Elias dehors. Bon, ok. Elias s'en va, il quitte le ring, il a été expulsé par Rey Mysterio, mais un autre bonhomme arrive, et alors là c'est pas la même musique puisque Lars Sullivan débarque, le géant, le monstre, le je sais pas comment on peut l'appeler, l'ogre, là il a une tête d'ogre, un peu on dirait Shrek, hein. Mais un Shrek pas sympa, et tellement pas sympa qu'il va détruire Rey Mysterio, il va lui faire une powerbomb ou même deux, je crois, de mémoire, enfin bref. Il laisse Rey Mysterio inconscient au milieu du ring après l'avoir sacrément démonté. A priori, donc lui aussi fait partie de la liste. Lars Sullivan à Raw, c'est confirmé ?
Ah, écoute, ouais, Lars Sullivan à Raw annoncé aussi, pareil. Donc, je crois que là, ça y est, c'est confirmé. Écoute, c'est le public québécois ont été indulgents. J'en profite, je le salue, j'ai un cousin au Québec. Donc, du côté du fleuve Saint-Laurent, tout ça. Mmh. Voilà. Et à Chicoutimi, exactement.
Ah, c'est joli ça.
Parce que bonjour, s'il m'écoute, je sais qu'il regarde un peu de catch, mais pas, c'est pas son truc, lui c'est le hockey, son truc. Donc d'où je vois toi, ma connaissance un peu des Canadiens de Montréal.
Je vois ça.
Voilà, et donc du coup, si tu veux, le segment lui-même, bah, ouais, c'est ce que je disais, le public a été indulgent, parce qu'effectivement, quand Ray il a fait son botch, là, le public a été cool et tout, on n'a pas rajouté des caisses derrière, quoi.
Ouais.
Et ça a été, ouais, du coup, ça a été un petit peu foiré sur le coup, quand même, ce segment-là. Mais après l'arrivée de Lars Sullivan, alors, si tu veux, en fait, Lars Sullivan, c'est qu'il a placé, là, il a changé un petit peu son finish, puisqu'il a placé ces deux espèces de rock bottom circulaires, là, un peu retravaillés. Mm-hmm. Et d'habitude, il finit par ça. Mais là, il n'a pas fini par ça. Il a fini par une powerbomb.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai l'impression que peut-être on lui a un petit peu changé son finisher, là. La powerbomb fait plus d'effet. Il lui met une sit-out powerbomb en fait, quoi. Donc, mais il est parti comme un peu dans l'indifférence générale, quoi.
Ouais.
Ils vont avoir du mal. Tu sais, moi, j'aurais pas fait ça avec Lars Sullivan. Je crois que je l'aurais fait démonter des jobbers au départ. J'aurais fait gagner des matchs, pas faire des interventions. J'aurais fait un petit peu. Alors, ça va pas plaire, mais j'aurais fait un petit peu à la Ryback. Je l'aurais fait annoncer comme freak, et puis il serait venu démonter 2-3 jobbers pendant 2-3 lundis, quoi. Et puis après, on serait parti sur une feud un peu. Là, il attaque tout le monde et n'importe quoi, n'importe comment. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Voilà, il attaque. Voilà, le garçon, il sort de la gorilla position et puis il vient démonter les uns après les autres. Et sans être très convaincant pour l'instant.
Bah, y a quand même une thématique, c'est qu'il attaque les quadragénaires bien avancés, quand même, globalement.
Ah oui, il a un goût prononcé pour les vieux.
Oui, Kurt Angle, les frères Hardy et Rey Mysterio pour le moment.
Oui, oui, on constate que pour l'instant, il attaque beaucoup les vieux.
Ouais.
Après, juste un petit mot pour revenir sur Elias, Rey Mysterio. Quoi, parce que j'étais content de voir Rey Mysterio venir s'attaquer un peu à Elias. Elias, c'est un peu un phénomène de foire avec la guitare, et on sait à chaque fois les grosses hits et tout ça. Donc du coup, à chaque fois, il a quasiment un mec différent qui vient. Là, il est quand même lancé sur une feud plus ou moins sur du moyen terme avec l'histoire avec l'Undertaker. Elias, j'espère par exemple qu'il sera dans le Money in the Bank, tu vois, ça fait partie
ouais.
En mai, hein. Donc si tu veux, j'aimerais bien voir Elias dans le Money in the Bank match. Et puis voilà, je trouvais ça pas mal, effectivement, bah, cette arrivée de Lars Sullivan un peu dans l'indifférence au départ et à l'indifférence à l'arrivée, quoi. Donc pour l'instant, ils sont un peu en train de foirer leur coup au niveau booking avec Lars Sullivan, quoi.
Ben ouais, t'as raison, parce qu'il s'en prend à des mecs qui bon, c'est pas qu'on s'en fout de Rey Mysterio, mais il en a tellement pris dans toute sa carrière que ça nous marque même plus vraiment, quoi. Après, moi, je suis pas tout à fait ton avis, parce que je suis pas un grand fan des sessions démontées des jobbers. Strowman avait fait ça aussi pendant des plombes, et je trouve ça pas. Mais bon, on va voir ce que ça va donner avec ce Lars Sullivan. Du coup, sur ce segment, on a quand même deux arrivées à Raw, hein, parce que Rey Mysterio, il était à SmackDown ces derniers temps, quand même.
Mon bon Réré, mon merveilleux Réré, oh, c'est parfait. Je suis tout à fait content d'avoir Réré, quoi. Il commence à avoir de la bouteille, il est âgé et tout ça, ils l'utiliseront avec parcimonie, mais moi je suis toujours content d'avoir Réré quelque part.
Bon, oui.
WWE.
Ça fait toujours plaisir. Et on continue cette grosse soirée de Superstar Shake-Up. Nous avons une équipe qu'on n'a pas beaucoup vue ces temps-ci, un petit peu en dents de scie, hein. C'est Bobby Roode et Chad Gable, donc les deux les Glorious Men. Hein, on rappelle qu'ils étaient champions tag team, hein, il n'y a pas si longtemps avant WrestleMania, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et puis ils sont un peu sombrés dans l'oubli, donc ils viennent prendre le micro pour dire qu'ils sont prêts à affronter n'importe qui, à répondre à n'importe quel challenge. Sauf que le téléspectateur avisé, comme moi et peut-être comme toi, Chris, savait qu'il allait arriver, car il y a eu un botch là aussi de la technique.
Ouais, un gros botch de la technique, ouais, putain.
Qui nous a fait apparaître en gros à l'arrivée de Bobby Roode et Chad Gable, le nom de ceux qui allaient débarquer ensuite. Et ce nom-là, j'en suis ravi parce que c'est pour moi le draft qui me paraissait le plus évident, tellement ils avaient tout fait à SmackDown. Ce sont évidemment les Usos. Jimmy et Jay Uso arrivent. Reviennent, de toute façon tous ces vétérans ils sont toujours passés à un moment donné à Raw, mais reviennent dans la team rouge. Donc on comprend mieux aussi pourquoi ils ont perdu leur ceinture la semaine dernière à SmackDown. Et ils affrontent donc Roode et Gable. Comme quasiment tous les arrivants ce soir, hein, ils font forte impression et ils vont gagner la rencontre. Double kick dans les molaires de Gable, double splash ensuite. 1, 2, 3. Les Ouzos ont gagné, donc je rappelle, hein, les Ouzos qui rejoignent aussi les fameux Viking Experience, les Revival, Ricochet Black. Ça commence à sentir pas mal là, Maro, hein.
Ah ouais, pour la Tag Team Division, c'est bon tout ça. Hein. Il y a
Ouais.
des gros poissons là qui débarquent, qui retournent. Les Ouzos sont de retour à Raw, les amis. Ils sont de retour et ça, c'est bon ça. Et ouais, t'as parfaitement résumé. Hein. Ils avaient fait tout le tour qu'il fallait à SmackDown. Ils ont eu des runs convaincants. Hein. C'est les patrons de la Tag Team Division dans son entier, j'ai envie de dire, presque à la WWE, quoi.
Ouais.
C'est des vétérans. Voilà, enfin, c'est même pas encore des vétérans. Je sais pas quel âge ils ont, tiens, les Ouzos. Il faudrait que je regarde quel âge ils ont, ces jeunes hommes.
Bon, ils sont pas très vieux, je pense, mais
Si, ouais. Et
ça
donc,
fait.
on avait un
Ouais.
match à Raw, voilà, on avait un Uso versus Bobby Roode, Chad Gable. Moi, je trouve que le match a été finalement assez court.
Ouais.
Mais au final, je me suis dit, purée, tag team player, quoi, à Raw, là. Oh là, oh là, ils envoient du lourd dans la tag team division. Eh ben, bonne nouvelle.
Ouais, d'ailleurs, avec le recul, hein, c'est vrai qu'ils ont eu un match à WrestleMania où ils ont. C'était un peu leur chant du cygne, donc ils ont bien montré qu'ils ont tout réglé à SmackDown. Déjà, moi, je suis très content parce que je crois qu'on peut pas avoir une mauvaise division tag team dans laquelle il y a les Usos. Je sais pas trop, par contre, pour cette équipe de Bobby Roode et Chad Gable, si on peut en attendre quelque chose. À vrai dire, ils ont pour le moment pas montré grand-chose. Bon, c'est
Non,
pas.
non, je suis d'accord avec toi. Bobby Roode, Chad Gable, c'est pas forcément l'équipe qui fait le plus rêver dans la Tag Team Division. Mais ce qui est bien, si tu veux, c'est qu'il y ait de la compétition dans la Tag Team Division à Raw.
Ouais.
Ça manque beaucoup. Tu vois, là, on pouvait avoir les matchs pour le titre, des matchs simples comme là. Si tu veux, on n'avait pas cette qualité-là, quoi, de catch, quoi. Là, tu vois,
Ouais.
voilà, ça envoie. Gable et Roode, ils ont eu un match assez court contre les Ouzos. Et les Ouzos, ils étaient là pour envoyer du spectacle, là, tu vois, avec le double splash et tout ça. Il fallait envoyer la totale, quoi.
Ah ben ça.
Les Ouzos, ils sont en guerre avec les Young Bucks pour les super kicks, quoi, tu vois. Quelle est la meilleure team de super kick au monde? Est-ce que c'est les Ouzos ou est-ce que c'est les Young Bucks?
Ah ben moi je connais pas assez les je côtoie pas assez j'avoue les Young Bucks, la scène indépendante, mais bon là c'est bien, j'ai hâte de voir des interactions avec de Revival notamment et puis avec les deux Vikings, même s'ils ont un nom pour le moment que je trouve pas terrible, ça promet quoi. Et qu'est-ce qui ah oui, on enchaîne sur quelque chose de vraiment une spécialité de Montréal, puisque Nous avons un Moment of Bliss avec Alexa Bliss, toujours aussi élégante. Et son invité du soir, bah, c'est le petit enfant de la maison, c'est le petit prodige. C'est Sami Zayn qui est là.
Le chouchou de Montréal.
Le chouchou de Montréal. Et alors, ouais, grosse pop pour Sami Zayn, la foule qui chante sa musique. Lui, il danse, il est dans un état d'excitation, il chante, il danse, il se couche sur le canapé. Bref, sa musique d'entrée va tourner trois fois tellement c'est la folie. Évidemment, tout ça a été beaucoup trop gros pour être vrai, hein, surtout par rapport à ce qu'avait dit Zayn la semaine dernière au micro. Et ben, rebelote, hein, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il s'attire d'énormes huées alors qu'il venait d'être porté au nu. Il nous dit qu'il adore Montréal, mais qu'en même temps, les gens de Montréal, ils sont nuls, détestables, qui servent à rien, que lui, la meilleure chose qu'il ait fait de sa vie, bah, c'est de partir vivre en Floride, au soleil, de se casser avant de devenir comme tous ces gens-là. Et il part, voilà, et il préfère s'en aller en disant « See you in hell », donc allez, rendez-vous en enfer, tous. Ciao les nazes. C'est court, c'est bruyant, émotionnellement intense en tout cas. Alors ce Sami Zayn Hill qui trash talk la foule, je sais qu'on n'est pas tous d'accord dans l'équipe de catch-up, si on aime ou on n'aime pas. Qu'est-ce que t'en penses toi, Chris?
Alors moi j'ai trouvé ça marrant, toute l'entrée, tout ce que t'as dit sur l'entrée, etc. C'était assez génial quoi, toute la pop et tout, c'était un truc de fou quoi, tout le olé olé, etc. Enfin bref, on a eu un délire total avec les trois musiques et tout. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors le problème c'est que ça, il est heel Zayn, et du coup bah, le public encore une fois, je trouve, a été assez indulgent et a marché dans la combine. Tu vois, le public a été marrant, les on s'en calisse, on s'en ouais. calisse, tout ça c'était excellent quoi. Et en plus on voyait bien qu'Alexa Bliss elle comprenait rien du tout à ce que racontaient les Québécois, donc j'ai trouvé l'angle finalement plutôt marrant, et Zayn il gère plutôt bien l'affaire. C'est pas facile, il est à la maison et il doit faire sa promo heel ouais. et embarquer la foule avec lui. Au final il embarque la foule avec lui, finalement moi j'ai envie de dire mission accomplished, tu vois, mais parce que mission accomplie, parce que les fans, voilà, c'était le chouchou, et je pense que les fans de Montréal voulaient pas lui défoncer son truc, et l'ont laissé dans sa gimmick de heel. C'est un truc dans les années 80, 90 qui aurait pas été possible, ça. Ça, c'est, tu vois, la Hart Foundation qui vient de rentrer au Hall of Fame, jamais à Montréal, ou à Calgary, ou à Toronto, etc., elle aurait pu avoir cet appui-là. Là, Zayn, il est tout seul, on est au 21e siècle, les choses ont changé, et j'ai trouvé que le public avait été voilà, indulgent avec lui, et que du coup, ça avait fait marcher le segment. Quoi. Pour moi, c'est bien passé.
Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, je fais partie de ceux qui sont assez fans là, de ce Sami Zayn. Alors, ok, c'est Hank qui trouve que c'est très... notre ami Hank qui trouve que c'est très du revu, c'est vrai que le heel qui a pour croisade de dire que les fans sont nuls, c'est évidemment du...
Sur le discours, là, je peux être relativement d'accord avec Hank. Hein. C'est clair que sur le discours, ouais, c'est du déjà-vu et du déjà-vu.
C'est du déjà-vu, mais je trouve qu'il met une telle... Il est surexcité, quoi, Sami Zayn. Il met une... Et mais... pourtant, ouais, moi, c'était un des mecs que j'aurais jamais vu faire un heel turn. Pour moi, c'était un babyface du type Rey Mysterio, quoi. C'est High Flyer, machin, mais en fait, il est vraiment bon, je trouve, au micro. Et en plus, il a ce côté... tu vois, quand Daniel Bryan dit du mal du public, ou il y a un côté sincère, en fait. Daniel Bryan, voilà, il est en croisade contre les pollueurs. Alors que Sami Zayn, il a une gueule... On dirait ce qu'on appelle maintenant un troll. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est vraiment de la mauvaise foi complet, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il sait lui-même qu'il ne croit pas ce qu'il dit, mais c'est juste pour énerver, c'est de la provoque.
Ouais, ouais. Mais il fait du troll, là, clairement, en étant... Ouais. À Montréal, il troll le public en faisant une entrée de dingue top babyface, et dans les 3 minutes qui suivent derrière, il se retrouve à faire une promo heel et à retourner le public pour se faire huer, quoi.
Ouais.
Et c'est quand même, c'est pas donné à tous les catcheurs, ça.
Non, bah clairement, alors c'est pas du tout, pour le moment, on sait pas vers où on va avec Sami Zayn niveau... Niveau feud et niveau carrière, mais là je le trouve assez haut placé dans la hiérarchie. Il a l'air, il envoie quand même là. Il fait un beau segment à Montréal, comme tu dis, c'est marquant, c'est pas mal pour son début de retour entre guillemets.
Voilà, encore une preuve de confiance encore. On lui lâche le micro quelques minutes. Je pense que lui, il savait où il voulait aller avec le public et il savait jusqu'où le public québécois. très tolérant, et moi, je répète, le public québécois était très tolérant avec ça. Ils auraient pu, quand ils ont fait la session On s'en calisse, derrière, ils auraient pu mettre le feu et dire, ouais, non, mais nous, ça nous intéresse pas, ta promo heel, quoi. Voilà, t'es à la maison, là, t'arrêtes tes conneries, quoi.
Ouais.
Non, il est resté dans son truc, le public est resté dedans, et c'était sympa quand il se lève, d'ailleurs, il se lève, il part, et que le public se met à chanter Nanana Goodbye, tu vois. Moi, je me suis dit, bah voilà, mission accomplie.
Ça a bien marché, c'est vrai. Alors, ensuite, ça a peut-être moins marché, ça. On passe à la tag team féminine. Bayley, elle a perdu Sasha Banks, elle essaie de lui téléphoner, mais Sasha Banks, elle répond pas. Donc elle va trouver une partenaire ce soir pour affronter les Iconics. Cette partenaire, c'est Naomi qui est sortie du formol, hein, visiblement, puisque ça fait un bon moment qu'on l'avait pas vu faire grand chose. Et Naomi contre Bayley, et ben ça, c'est assez fort pour battre les championnes tag team. Grâce à un combo, il y a Bayley to Bayley suplex et puis un moonsault de Naomi sur Billie Kay. Voilà, ben victoire de la fluo et de la câlineuse. Donc je sais pas si cette équipe est amenée à durer. A priori, d'après mes sources, Sasha Banks est blessée. Je sais pas quel nom on peut leur trouver, the Glow and Hug Association, un truc comme ça.
Glow and Hug Corporation.
Mmh. Ouais, pas.
Écoute, bah, tu m'entends pas là?
Ah, c'est bon, je t'entends.
Le match en lui-même était très court. Hein. Ça a été très rapide. Hein. Franchement, ils ont expédié ça. Voilà, donc du coup, on a l'arrivée de Naomi dans le roster de Raw pour les filles. Donc écoute, voilà, est-ce que c'était un one-shot? Est-ce qu'elle va être utilisée en tag team, Naomi, effectivement, avec Bayley? Est-ce que la blessure de Banks va être si longue que ça? Ou est-ce que c'est diplomatique? Enfin, on ne sait pas trop. Du coup, il faut bien la lancer cette Women Tag Team Division, quoi. Donc, là, c'était Bayley Naomi. Faut pas que les Iconics apparaissent trop faibles non plus, tu vois. Là, Naomi arrive, bim, elles perdent. Bon. J'espère qu'ils vont pas en faire non plus une équipe de heel qui passe son temps à perdre. Et puis, on va voir. C'est le début. Donc, on va laisser le bénéfice du doute.
Ouais, ça a l'air compliqué. Donc Nia Jax aussi, a priori, serait blessée. Il faut quand même préciser, oui, que bah, du coup, les Iconics, c'est son championne Interbrand. Donc c'est pas une montée, c'est pas une arrivée à Raw, hein, là, qui est ce soir. C'est juste qu'elles vont être un peu partout tant qu'elles sont championnes. Hein.
Ouais, ouais. Et puis parce que demain, elles seront à SmackDown, non? Parce que il va y avoir la surprise de Paige.
T'as raison.
La semaine dernière, donc elles seront à SmackDown demain. Les Iconics.
Ne ratez pas ça.
Ne ratez pas SmackDown.
Alors un autre qui arrive officiellement à Raw, c'est EC3, donc le fameux top 1%. Il a droit, pour la première fois depuis qu'il est monté, il a droit à son entrée, à sa petite danse, à son petit salut du public. Il est quand même interrompu en plein milieu par une sorte de promo cryptique à base de dinosaures qui sort d'un paquet cadeau et qui se met à rire. On a déjà vu ça la semaine dernière, mais ça reste très perturbant. Qu'est-ce qui nous arrive là, Chris? Je ne sais pas.
Tu me parles de EC3 là, ou tu me parles de...
Non, je...
de la buse, ou de, je sais pas quoi, d'une espèce de truc qui fait des rires et qui s'étouffe dans la fumée.
Oui, je parlais plutôt de ça, mais c'est vrai que... On va parler plus vite alors d'EC3, parce que pour son tout premier match à Raw officiellement, ben en fait il n'y aura pas de match parce que son adversaire c'est Braun Strowman, et que de suite la gueule de EC3 change. Il est beaucoup moins content tout d'un coup d'être là. Braun Strowman le détruit. Bon, il n'y a pas de match, le match n'est même pas officiellement lancé, mais à tel point que Braun Strowman va amener EC3 hors du ring et le détruire sur un truc, sur, je sais même pas comment on peut décrire, en fait, c'est pas la table des commentateurs, c'est à côté, c'est une espèce de
une plateforme quelconque, voilà.
Bref, il s'est tué, détruit, il ne bougera plus, et puis voilà, donc ça commence fort. Bienvenue à Raw, on sait pas ce que sont devenus ici 1 et 2, mais peut-être qu'il va bientôt falloir penser à convoquer ici 4, là, parce que ça mal part.
You're welcome, ici 3. Ça a été un segment extrêmement rapide. Entrée de EC3, entrée de Braun. Braun démolit EC3. Merci, au revoir. Et après, on a direct Becky qui rentre sur le stage, face à Braun, quoi. Donc le segment était là, j'ai presque eu l'impression que c'était là pour donner l'intronisation à la rouquine. Mais ça
ouais.
A bien. Ici, il devait être un peu dégoûté quand même, tu vois, quand il a dû voir le booking du soir dans le roadbook que doivent avoir les mecs, quoi, qu'il a vu, EC3 squashé par Braun Strowman, pas de match, que dalle, et tu
Ouais.
prends un choc slam et tu fermes ta bouche. Voilà.
Bon,
Donc,
on verra.
next.
Ouais, pour toi, pas grand-chose à espérer pour ce jeune homme, Arrow.
Bon, moi, en plus, je vais être très, très franc. J'ai jamais été un fan de lui, ni à la TNA, ni à NXT, ni nulle part. Donc, il aura du mal à me convaincre dans le main roster. Il vient, bon, là, le pauvre, quelque part, hein, je pense toujours à ça. Les catcheurs, ils se prennent un carton, ils se prennent un squash quand ils commencent dans les main rosters, etc. C'est pas toujours évident non plus, quoi.
Non.
Mais si tu veux, bon, voilà, il fait partie des catcheurs qui vraiment m'intéressent vraiment pas beaucoup. Et c'est un
Ouais.
profil. C'est un profil qui me plaît pas des masses, ça, tu vois, ici, tu es quoi. Donc, écoute, j'ai peu d'espoir pour lui dans le main roster, quand même.
Ouais, moi je suis comme toi, je pas de grands souvenirs de lui à NXT. Là je crois qu'on nous envoie clairement le message. Hein, c'est bon, ça a beau être Strowman en face, et Strowman il peut démonter tout le monde, mais ouais, ça va être de la low-card, quoi, ça va être du. Ça risque d'être du Mojo Riley. Il va falloir cravacher sérieux pour sortir de là. Malheureusement, donc on nous apprend une autre mauvaise nouvelle, en tout cas moi j'ai trouvé, c'est que parmi les autres arrivés à Raw, il y aura Eric Young. Eric Young tout seul, c'est-à-dire qu'a priori Sanity. Mais
Ouais,
Sanity.
Sanity a été dégagé, malheureusement.
Ouais. Donc Eric Young n'est même pas présent, là c'est encore pire, je trouve, niveau symbole.
Ouais, non seulement le clan est mis sur la touche, mais en plus, le mec est même pas présenté lors du Raw check-up.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas. Enfin, ouais, ça m'a pas ravi non plus de pas voir Sanity. Parce que voir Sanity dans la tag team des jeunes de Raw, ça m'aurait bien plu.
Ah bah oui, et puis même à la limite, bon, à la limite, Sanity, moi j'aimais beaucoup à NXT, mais à la limite on split, mais Eric Young, même s'il est pas tout jeune, il avait peut avoir le potentiel, je pense, pour être un peu un bon mid-carder, quoi. Je sais pas, moi tu me dirais Eric Young, Finn Balor, je dirais pas non, par exemple, tu vois.
Ouais, pourquoi pas, mais Eric Young, il était intéressant dans ce rôle à Sanity, tout seul.
Ouais.
Pas trop ce qui compte en faire, quoi. Mais bon, écoute. Voilà, c'était pas. Ça, par contre, pour le coup, ça faisait pas partie des grandes nouvelles de ce check-up.
Non, bah comme tu l'as dit, en tout cas, juste après la victoire, enfin c'est même pas une victoire, mais le triomphe de Braun Strowman, il y a Becky Lynch qui arrive, fière, comme si elle avait un bar tabac, toujours avec ses deux ceintures. Elle a un match ce soir contre Ruby Riot. Match qu'elle va gérer de main de maître, puisque elle est d'abord empêchée de placer son disarmer par Logan et Morgan qui sont à l'extérieur du ring, mais elle va faire un suicide dive sur les deux, ça règle le problème, et puis on met Ruby Riot dans le disarmer et on gagne. C'est pas plus compliqué que ça quand on s'appelle Becky Lynch. Alors, il y a eu un. Il y a eu un truc entre-temps, mais on va enchaîner quand même si ça te va sur ce segment féminin, on continue.
Ouais, vas-y, vas-y.
Donc Natalia arrive, Natalia aussi arrive, elle vient féliciter Becky Lynch pour toutes ses victoires de ces derniers jours. Mais Natalia, elle veut le championship de Raw. Donc elle vise pas le winner takes all, mais elle vise le championnat de Raw. Becky Lynch, elle lui dit qu'elle savait en gros qu'une fois qu'elle aurait tout gagné, ben. Toutes ces meufs un peu comme elle avant, qui sont un peu mal considérées, qui sont un peu underdog, elles allaient venir lui réclamer un fight. Donc bon, elles se connaissent toutes les deux, hein, elles s'admirent, elles s'apprécient. Ça se critique pas trop, au contraire, hein, ça reconnaît les qualités des uns et des autres. Et là, on a l'arrivée de Lacey Evans. Lacey Evans, donc, elle est officiellement à Raw. Elle veut le titre, oui, et. Elle a réussi à négocier auprès des McMahon pour avoir un match ce soir contre Natalia. Et la gagnante aura un match contre Becky Lynch, à qui elle dit de bien rester regarder parce que une lady peut avoir pas mal de choses à apprendre à The Man. C'est courageux, c'est bien envoyé. Par contre, c'est pour moi, c'est le move le plus intéressant de Lacey Evans ce soir parce que le match est long, il n'a pas duré très longtemps, mais. essentiellement un travail au sol avec une espèce de clé de bras, enfin de torsion du cou sur Natalia. Bref, c'est pas terrible, mais grâce à un moonsault depuis la troisième corde, Lacey Evans l'emporte. Et donc, cette dame qui ne faisait que des petits coucous est tout d'un coup propulsée comme la rivale officielle de Becky Lynch pour le titre de Raw uniquement, en tout cas. Donc, est-ce que Becky Lynch va pouvoir gérer d'autres challengers à SmackDown? On verra peut-être dès demain ou dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment féminin assez long avec Becky Lynch triomphante, mais quand même prise en chasse?
Ouais, bah oui, elle est chassée, c'est normal, hein, c'est la championne, il faut que ça chasse, hein, de toute façon, il faut, on veut des fighting champions. Et Becky, elle a bien expliqué que de toute façon c'était Becky to Bell, c'est qu'elle défendrait le titre n'est pas unifié, donc les deux ceintures se défendent, voilà, dans les shows différents, donc Becky, elle va naviguer entre Raw et SmackDown pour l'instant, tant qu'elle est dans cette situation de détenir les deux titres. Donc, écoute, c'est pas plus mal. Quand elle arrive, il y a toujours une bonne pop et tout ça. À la fin du combat contre Ruby Riott, c'était une pop moyenne, on va dire, quoi, parce que le match n'a pas été si mal. Ruby, elle est pas si mal. Ruby, la pauvre, elle rentre dans une indifférence aussi. Et c'est dommage, parce que le Riott Squad, moi, j'aimerais bien que ça perce un peu plus et que Ruby Riott, elle est pas mal à droite dans le ring. Voilà, quoi. Donc, le match passe plutôt bien avec Becky. Et après, comme tu le dis, bah voilà, on a le droit à l'arrivée avec Natalia, avec tout le segment avec Natalia et Lacey Evans, quoi. Bah ça y est, Lacey Evans enfin en tout cas elle est dans le ring, enfin elle fait quelque chose, tu vois, parce que là il commence à y avoir vraiment marre, là ça faisait des semaines et des semaines qu'on avait cette entrée permanente. Là, depuis la semaine dernière, elle a enfin eu une interaction physique avec quelqu'un, donc en l'occurrence c'est Becky. Merci Becky d'être là quand même pour voir Lacey Evans en action. Donc et si tu veux, si tu te rappelles bien, Lacey Evans, la première interaction physique qu'elle a eue, c'était justement avec Natalia dans le Rumble, où elles avaient eu un spot ensemble dans le Rumble, et où ça s'était pas bien passé d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de botch, quoi. Donc du coup, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu que le match annoncé pour le number one contender, c'était Lacey face à Natalia. Donc je me suis dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va donner dans le ring? Et bon, dans le ring, ça a été moyen, quoi. Voilà, ça n'a pas été extraordinaire comme match, quoi. Hein. Mais par contre, elles ont eu un petit peu de temps. Hein. Ça n'a pas été un match qui s'est réglé comme ça en deux minutes, tu vois.
Non, oui.
Natalia, elle est quand même assez solide dans le ring quand elle met sa discus clothesline, quand elle enchaîne avec le sharpshooter, etc. Tu vois, Natalia, elle a un bon background de prise, etc. Donc on connaît bien parce que voilà, elle est là depuis longtemps. Mais donc du coup, elle porte bien le match, Natalia, moi j'ai trouvé. Et Lacey Evans a été enfin dangereuse un peu, quoi. Voilà, elle tente des trucs. Elle a fait un beau moonsault pour finir.
Oui.
Quand même, le moonsault, il est à souligner. Donc finalement, l'impression, elle est c'est moyen, c'est pas top, mais c'est moyen. Il y a quand même des choses. Si tu veux, là, il y a eu une amélioration. Il se passe quelque chose au niveau du personnage de Lacey Evans. Elle est number one contender. Elle va affronter Becky. Bon, voilà. Ça se pose. Il se passe un peu quelque chose avec elle, enfin.
Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Quand même. Moi, je trouve que ça arrive très très vite pour elle d'être number one contender. Effectivement, ça. Il y a une drôle d'impression, c'est que Becky, elle est prise en chasse. Hein, quand même, il y a Natalia. Mais c'est voilà, on dirait que c'est vraiment la low card qui a augmenté d'un cran, parce que je spoil un peu d'avance, hein, mais on ne verra pas du tout Ronda Rousey ce soir. On ne sait toujours pas post-mania ce qu'elle va donner. Pas de Charlotte non plus, donc vraiment, ça fait bizarre quand on a vu ces meufs se mettre sur la gueule pendant plusieurs mois pour être au top de la pyramide. Là, on a l'impression que le top de la pyramide, il est assez vite atteint, quand même. Une petite marche pour Lacey Evans, mais bon, ça, c'est fresh start, on a des nouvelles têtes, donc à voir ce que ça donne. Bon, pour moi, j'ai pas trop d'inquiétude pour le trophée de Becky Lynch, je suis pas sûr que ce soit Lacey Evans la future championne, mais...
Peut-être que pour des raisons de booking, peut-être qu'elle peut être dans le viseur pour décrocher une des ceintures et pour que Becky ne soit que à SmackDown, par exemple, si tu veux, quoi. Que le titre à Raw reste à Raw et puis que Becky soit envoyée définitivement sur SmackDown. Je sais pas encore comment ils vont envisager ça. Je pense que pour moi, les C-Events, c'est une feud de transition, si tu veux.
Ouais, on verra. Mais,
parce qu'il y a le Money in the Bank qui arrive en mai. Elles vont avoir un creux avec l'Arabie Saoudite puisqu'elles ne catchent pas en Arabie Saoudite.
Oui.
Ce qui est quand même qu'on veut, quoi, mais c'est, voilà, malheureusement, les filles ne catchent pas en Arabie Saoudite, n'ont pas cette chance-là. Elles touchent pas le gros chèque, les filles. Mais voilà, c'est Evans, pour moi, c'est une feud de transition.
Oui, je pense aussi. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié du coup. Oui, je voulais dire, oui, tu signes une bonne chose. Le prochain pay-per-view, c'est Money in the Bank. Donc, quelqu'un qui. La fille qui remporte Money in the Bank et qui cash sur Becky Lynch, est-ce qu'elle choisit son titre? Grosse question.
Bonne question. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Donnez-nous la réponse qui nous illuminera.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va cacher sur Becky Lynch? On verra bien. Donc il y avait des segments aussi en coulisses, hein, je passe assez vite. C'est Charlie Caruso qui va aller interviewer les protagonistes du main event. Donc d'abord, elle va voir Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley qui disent en gros qu'ils vont battre Rollins et Reigns, quel que soit leur partenaire, qu'ils ont déjà détruit Ambrose la semaine passée. Donc c'est bon. Et un peu plus tard, on verra Charlie avec Rollins et Reigns. Elle essaye de savoir qui est le partenaire mystère. Et évidemment, il lâche pas le morceau. Ils sont copains comme jamais, Seth Rollins. Ça fait plaisir à voir. Au moins, lui, il dit qu'il est content. La vie est belle. Je suis champion. J'ai mon copain Roman Reigns. Il est en bonne santé. Tout ça, je suis heureux. Et puis, vous verrez bien qui est le troisième. Mais ça va envoyer du lourd. À ce moment-là, hein, difficile de savoir qui sera ce partenaire mystère. On va garder encore un petit peu le suspense. Hein.
Ouais. C'était un segment classique de backstage. Avec des faces vraiment au top de l'amour de la vie.
Ouais, c'est plaisir.
c'était la lune de miel.
Ça fait plaisir, parce que c'est vrai que dans le catch, on n'a jamais l'impression que les mecs arrivent à s'arrêter et à savourer, puisque t'es tout le temps, même champion, hein, t'es tout le temps à nouveau dans le feu de l'action, mais là, c'était sympa, c'était souriant. Tant mieux, parce qu'il y a eu un nouveau segment qui est pas du tout souriant, lui. Alors, on retrouve une obscurité, un clip un peu comme le tyrannosaure qui sortait de la boîte. Là, c'est une maison de poupée, il fait noir, il y a des jeux par terre, il y a une espèce de lapin en peluche qui fait du cheval à bascule tout seul. Et tout d'un coup, dans le noir total, sur un rocking chair, surgit une poupée. Une poupée de porcelaine, un peu qui ressemble un peu à la poupée de Saw ou ce genre de film d'horreur, et qui se met à rire aux éclats, un rire effrayant.
Mon Dieu.
Là, je te repose la question, ouais, Chris, qu'est-ce qui est en train de nous arriver?
Mais je sais pas, est-ce qu'on est en train de nous repackager Bray Wyatt en Master of Puppets? Vois-tu? Parce que moi, pour moi, c'est Bray Wyatt. Hein. Quelqu'un a encore des doutes, hein, là-dessus.
Oh bah oui, je pense qu'on a reconnu le rire et...
Excusez-nous de spoiler, hein, si jamais quelqu'un, mais très franchement, je n'arrive pas à voir autrement que Bray Wyatt. Hein.
Non.
Donc Master of Puppets, Bray Wyatt. Écoute, j'ai l'impression qu'on est en train de nous lancer là-dessus.
Ouais.
À suivre ou pas.
Eh ben, moi je vais poser la question directe. Combien on parie qu'il intervient dans le Money in the Bank masculin, tiens?
Pourquoi pas? C'est dans un mois. C'est envisageable. On va avoir encore 3-4 rows avec des vignettes, etc. Et puis effectivement, il peut intervenir dans un pay-per-view.
Moi, je le sens bien comme ça. Mais c'est marrant, parce que je me suis fait la réflexion que la musique de Lars Sullivan avait un peu aussi cette ambiance. Et ça aurait presque pu faire pour ce monstre-là une association intéressante d'être avec Bray Wyatt, limite.
Ouais, tu... Sullivan avec Bray Wyatt? Et qu'est-ce qu'on fait de notre bon Luke Harper aussi?
Bonne question.
Il va aller à SmackDown, Luke Harper?
En tout cas, on l'a pas vu de la soirée, là aussi.
La soirée, hein. Moi, je m'attendais, en fait, à le voir, si tu veux, dans ce row. Et du coup, en fait, j'ai été surpris, voilà, pas de Luke Harper. Je pensais qu'on allait avoir son retour, parce que je pensais pas qu'ils allaient le remettre avec Rowan à SmackDown. Et du coup, je me suis dit, il va aller à Raw. Et puis non, on ne l'a pas vu.
On ne l'a pas vu. Et on ne le verra plus, puisqu'on arrive directement au main event. Hein, ce Monday Night Raw touche à sa fin. Main event à 6, donc Drew McIntyre, toujours là. Baron Corbin, aussi, hein, qui se fait annoncer comme le vainqueur de Kurt Angle et l'enfant chéri, le favori de Montréal. En gros, ça change à chaque stade. Bobby Lashley, accompagné évidemment de l'inévitable Lio Rush. Roman Reigns. Seth Rollins, et qui est donc le partenaire? Eh bien, c'est ni plus ni moins que l'homme qui a construit la maison SmackDown, AJ Styles est là à Raw. Il est rasé de près, il a un peu changé de look, mais c'est lui. AJ Styles est à Monday Night Raw. Alors déjà, Chris, tu étais comment? Première réaction?
À l'arrivée d'AJ Styles?
Ouais.
Bah écoute, plutôt bien, AJ Styles. Hein. C'est un... Il fait partie des meubles. Hein.
Ouais.
Écoute, c'est son retour à Raw, tout ça. Il revient en pareil, en babyface, avec un duo qui est quand même dans la hype depuis des années et des années. En l'occurrence, Rollins et Reigns, quoi. Donc, on se retrouve avec un AJ Styles dans le roster de Raw. Ça a plutôt de la gueule, hein. Moi, jusqu'à présent, hein, dans ce check-up, là, on est dans le main event. Et si tu veux, tous les gens qui sont arrivés, à part, on va dire, bon, Naomi, ça fait pas forcément rêver ou des choses comme ça, Lars Sullivan. Mais après, on a eu quelques bonnes pioches, AJ Styles. Si tu veux, je préfère avoir un Raw, je préfère avoir AJ Styles que Randy Orton, par exemple.
on fera un petit bilan tout à l'heure, juste après justement de ces montées, de ces arrivées à Raw. Bon, sur le main event, on reste quand même sur un tag team match sans enjeu assez classique. Hein. C'est, et étonnamment, au début, c'est Reigns qui joue un peu le rôle du face en péril, qui a un petit peu de mal. Drew McIntyre apparaît toujours, je trouve, très très fort physiquement. Malheureusement, à un moment donné, il a une obsession, dont McIntyre, c'est Roman Reigns. Il s'en remet pas d'avoir perdu à WrestleMania. Donc il perd un petit peu de sa concentration, et à l'extérieur, hein, il va prendre un kick de Seth Rollins dans la mâchoire, puis un Superman Punch. Pendant ce temps, Baron Corbin va prendre un Suicide Dive de Seth Rollins. Et on se retrouve un peu comme à l'époque du Shield, hein, puisque Bobby Lashley... qui tente pendant ce temps-là un tombé sur AJ Styles, va encaisser un curb stomp alors qu'il tente le tomber. Ça, c'était assez bien vu. Hein. Il était couché sur Styles, il attend le 1, 2 et boum, curb stomp. Il prend ensuite un spear. Bobby Lashley est très solide, il arrive à se relever, mais phénoménal forearm ensuite. AJ Styles, tout un symbole, place la victoire. 1, 2, 3. Et l'on finit donc sur cette image du champion universel, ne l'oublions pas, Seth Rollins, avec Roman Reigns et AJ Styles. Donc, bon, une fin assez prévisible pour les babyface, mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre? Assez courte, hein, de 10 minutes, je crois même pas, mais quand même.
10 minutes, ouais, c'est ça, ouais, un match de 10 minutes. Ouais, écoute, la durée d'un match en pré-show à WrestleMania, quoi.
Ouais.
Mais encore un match tag team, ça a été la soirée tag team à Raw, hein, à part le
Finn Balor
versus Andrade, et encore qui a été le seul 1 contre 1, quoi. Sinon on n'aurait eu que des matchs tag team ce soir. Mm-hmm. Et du coup un main event plutôt plaisant, quoi. 10 minutes de catch quand même assez intense. On a eu le droit un peu tout, les kicks, on a eu, voilà. Et Jay il nous a sorti la panoplie là pour l'arrivée dans le show rouge, quoi. Donc,
ouais.
Le forearm qui va bien après le spear, tout ça, c'était bon, ça on voyait bien, quoi. Donc écoute, moi j'ai trouvé ça plutôt solide dans le ring, c'était plutôt pas mal. Bon, les main event de Raw qui se terminent sur des matchs tag team comme ça, c'est très très régulièrement que c'est de toute façon les face qui gagnent.
Oui.
Quand il n'y a pas de titre en jeu, quand il n'y a rien en jeu comme ça, voilà. Donc écoute, ça nous confirme, à part l'arrivée des J-Styles, ce match ne nous confirme ni le départ, ni que Roman Reigns, Rollins, McIntyre, Lashley, etc. restent à Raw, puisque ça a été bien précisé par Cole qu'on verrait à SmackDown ce qui allait se passer. Et du coup, c'était plutôt pas mal. C'était pas un main event de folie, quoi. Disons que c'était pas mal, et entre les cordes, 10 minutes de bon catch avec les faces qui gagnent à la fin. Voilà.
Ouais.
On peut dire un petit mot sur ce qui s'est passé sur l'after. Juste après le main event, le dark main event, est-ce que tu...
Ah, je ne savais pas, moi, non, vas-y, vas-y.
Tu ne savais pas, est-ce que je peux en parler maintenant, ou est-ce que tu veux que...
Non, vas-y, vas-y, parle-en, Chris, je t'en prie.
Après le match, il y a un Wenton... excusez-moi, après le match du main event, donc du tag team, Roman Reigns et Seth Rollins sont restés sur le ring. Seth Rollins a pris le micro, a lancé 2-3 trucs sympas à l'égard de la foule des Québécois, et ils ont fait venir quelqu'un sur le ring. Et en l'occurrence, ils ont fait venir Dean Ambrose, Dean fucking Ambrose. Donc voilà, donc qui est venu, qui a célébré, etc. Parce que je sais pas si tu as fait attention, mais pendant Raw, on a eu une promo un moment sur The Shield, the Last Chapter, The Final Chapter. Il va y avoir un house show spécial Shield. Qui va se passer, je crois, dimanche, si je ne me trompe pas. Et voilà, on ne sait pas trop quel va être le contenu. Apparemment, il y aurait deux matchs, mais il y aura un match avec le Shield, et voilà. Et donc, Ambrose ferait ses adieux de cette manière-là. Voilà, donc Ambrose est toujours à la WWE à l'heure actuelle, et il apparaît encore en Dark Event à Raw. Voilà.
Bah, merci Chris pour cette précision, parce que j'avais loupé l'info. A priori, c'est quand même parti pour être officiel, ce départ de Dean Ambrose. Et alors moi, de mémoire de fan, c'est la première fois qu'il y a ce traitement un peu bizarre où on ose complètement parler du fait qu'il s'en va, on assume. En même temps, on lui prévoit quand même pas vraiment de programme. Hein, Dean Ambrose, totalement absent de WrestleMania. Mais on le valorise un peu parce que ça reste le Shield. Bon, c'est un peu ambigu, mais... ça a l'air de partir sur...
Ils n'arrivent pas à le lâcher, quand même.
Ouais.
Il part, mais il part pas. Et puis le Shield, on refait un truc quand même avec le Shield. Bon, voilà, je pense qu'ils veulent peut-être faire des derniers shoots avec les trois réunis, mais peut-être c'est assez particulier, quand même, ce traitement d'Ambrose. Moi, en tout cas, de mémoire, écoute, c'est vraiment la première fois que je vois un départ... le traitement d'un départ fait de cette manière-là par la WWE.
Ouais, on sent que c'est lui qui veut partir et pas la WWE, quoi, qui voudrait qu'il parte. Enfin...
Voilà, je crois pas que ça soit ça fasse très très plaisir à la famille McMahon, le départ de Dean Ambrose.
Bon, on verra, il reviendra peut-être, hein, il a sa femme qui est là, quand même, n'oublions pas.
Oui.
Donc, alors, si on finit cette soirée, alors, il faut résumer quand même quelque chose que tu as dit, hein. On a eu plusieurs apparitions de gens qui étaient auparavant soit à Raw, soit à NXT, soit à 205. Donc on connaît des gens qui arrivent à Raw. Mais on ne sait absolument rien de ceux de Raw qui vont partir à SmackDown. Donc comme tu l'as dit, on peut très bien avoir Roman Reigns, par exemple. C'est ce qui s'entend un peu partout. Maintenant qu'AJ Styles est à Raw, on pourrait très bien avoir Drew McIntyre. On pourrait... Voilà. Donc la seule chose qu'on sait, c'est ceux qui sont arrivés. Et puis on sait aussi ceux qui ne viendront pas. Ça, c'est... Maintenant que Raw est passé, on sait par exemple que Kevin Owens ou Daniel Bryan, ils vont rester à SmackDown, hein, ils ne sont pas apparus là ce soir. Pour résumer, donc, parmi les grosses arrivées à Raw, je vais faire la liste, tu vas me dire si j'ai bon. On a eu le Miz qui est là à Raw maintenant. On a les fameux Viking Experience, donc les anciens War Riders a priori. Aleister Black et Ricochet. EC3. Lacey Evans, donc ça c'est les trois membres du call-up NXT, c'est les membres du call-up NXT de cet hiver qui sont confirmés. Ça nous laisse deviner que a priori Nikki Cross et les Heavy Machinery vont être plutôt à SmackDown. Cédric Alexander, Andrade et Zelina, Rey Mysterio, Lars Sullivan, qui était aussi un call-up, les Uso, Naomi, Eric Young tout seul malheureusement, et AJ Styles. Bon, alors ça te paraît un bon casting là pour une nouvelle saison de Raw?
Et écoute,
question subsidiaire, qui on envoie à SmackDown, du coup, d'après toi? Je te laisse répondre à tout ça.
Ouais, c'est plutôt des bonnes pioches, là, hein, ce draft-là. Moi, je trouve que c'est ce check-up. Mm. Et c'est plutôt pas mal. Hein, on a pas mal, hein, du Miz, du Styles, du Andra, du Rere. C'est un vétéran, mais il y a toujours besoin de vétérans dans les weekly. C'est bien. Les Uso, on n'en parle même pas. Quoi, à quel niveau ils sont dans la Tag Team Division, quoi. Donc, quelle bonne nouvelle pour eux d'avoir les Uso. Pour la Tag Team Division, en tout cas.
Mm-hmm.
Eric Young, tu l'as dit, ça, c'est la déception. Naomi, bon, pas d'un intérêt fou. Aleister Black, Ricochet, ça, c'est des confirmations, quelque part. Donc, bon, ces deux-là, on va voir combien de temps ils vont rester ensemble, mais en tout cas, ça reste une bonne pioche définitive. Lars Sullivan, voilà, à voir. Lacey Evans, à voir. Les Viking Experience, alors là, bon, moi, il va falloir qu'ils m'expliquent un peu comment ils vont faire le booking entre NXT et le main roster. Ça, c'est un truc. Et puis Cédric Alexander, bah écoute, j'ai donné mon avis au début de notre vidéo sur Cédric Alexander, donc je vous renvoie à ce passage-là. Mais c'est plutôt une bonne pioche. Et alors maintenant, pour répondre à ta deuxième question sur l'arrivée des gars de Raw vers SmackDown, eh ben là, j'en suis fort mari, hein, parce que il y a pas mal de possibilités. Vince Roman est quand même venu à SmackDown la semaine dernière se cartoucher avec Samoa Joe.
Ouais.
Mr. McMahon, il annonce que à SmackDown, avec l'arrivée de SmackDown sur la Fox, qu'il va y avoir du gros nom qui va débarquer à SmackDown, etc. Brock Lesnar à SmackDown. Non, je vous rassure, les amoureux du show bleu, non, je vous souhaite pas qu'on vous envoie Brock Lesnar. Parce que sinon, vous allez plus revoir le titre. Donc non, bah écoute, Roman Reigns à SmackDown, ça serait la première fois. Tu sais qu'il a jamais été drafté à SmackDown, Roman Reigns. Pourquoi pas Roman Reigns?
C'est vrai, ça.
Pour éviter une confrontation peut-être un peu trop brutale entre lui et Rollins.
Ça paraît le nom le plus évident. Alors j'entends beaucoup dire qu'il faut un top face parce que AJ Styles est parti, mais enfin bon, faut quand même rappeler qu'AJ Styles, ça fait ok, il était champion du monde encore en novembre, mais c'est quand même devenu presque un c'est un intermittent presque à SmackDown depuis ces derniers mois. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis bien content qu'il aille à Raw, parce que je pense qu'il va peut-être quitter ce côté un peu ce côté papa daddy ronronnant là qu'il avait un peu à SmackDown. Il sort de sa zone de confort, comme on dit, et ça va lui faire du bien. Mais moi je vois bien Roman Reigns. C'est vrai que t'as parlé de Strowman, parce que j'étais en train de me dire Strowman et Lars Sullivan dans la même ça va forcément se friter, mais peut-être que Strowman peut partir effectivement. Bon, qui sait qu'on... Par exemple, chez les tag teams, qui sait qui pourrait aller à SmackDown?
Je crois que Rhino c'était fini, puisque Rhino, son contrat se termine.
Ouais.
Qu'est-ce qui reste dans la tag team division à l'heure actuelle? Est-ce que les revivals... Il y a les Author of Pain aussi, mais les Author of Pain, est-ce qu'on
va oui.
Quand et comment? Mais je pense qu'ils vont rester à Raw, les Author of Pain. Ils sont comme il y a un blessé. Ça m'étonnerait qu'il y ait un move.
T'as ça raison.
Va... La tag team division, c'est peut-être les revivals, pourquoi pas? Pourquoi pas les revivals? Les revivals. Down.
Ouais, ou alors bah, Rude et Gable hein, qu'on a vu. Mais de toute façon, il y aura a priori forcément les Heavy Machinery, donc ça fait au moins un nom officiel, mais ça reste une petite scène. Moi, je suis assez étonné qu'on garde, en tout cas pour le moment, Sheamus et Cesaro visiblement ensemble. On verra ce qui se passe à SmackDown. Hein.
Ouais, peut-être que, écoute, ou peut-être effectivement, oui, ouais, à la rigueur, il y a une équipe qui split du côté de SmackDown. Voilà, il y a un peu de place qui va se faire, je sais pas. Écoute, là, je t'avoue, sur la Tag Team Division masculine, là, j'ai pas de... À part les revivals, en fait, moi, je vois pas trop. Ouais, Rude et Gable, pourquoi pas aussi.
Ouais.
La B-Team, je crois pas que ça a un intérêt particulier. Puis, on a besoin d'une équipe de jobbers, donc ils peuvent faire l'affaire.
Non, c'est sûr.
Parce que tu vois, on envisage ça sur une saison, alors t'imagines un peu le truc, quoi.
Ouais.
Donc, ouais. C'est pour ça, après, sur le côté féminin, c'est pareil, hein, féminin. Mm. Chez les filles, qui va rejoindre SmackDown?
Bah, Nikki Cross, du coup, a priori, mais...
Cross, ouais, Nikki Cross.
Est-ce qu'on peut envisager, remarque, après ce qui s'est passé, Natalia peut aller à SmackDown ou... Ouais, qui c'est qui reste? Ouais,
bah, oui, il y a Natalia, effectivement. Natalia, elle peut faire des... Natalia, elle a tellement d'aller-retour, hein, effectivement, elle pourra aller aussi, quoi. Natalia, c'est sûr que ça peut aussi passer, peut-être... Après, je sais pas, Nia Jax est blessée, donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Tamina? Est-ce que, bon, en même temps, Tamina, moins ils nous la mettent dans le ring, donc ça, c'est pas plus mal.
Ouais.
Écoute, non, mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on soit dans cette expectative-là, quoi, tu vois, pour le coup.
Tout à fait.
On pose des questions, c'est pas plus mal, quelque part, c'est qu'ils ont réussi leur coup. Ça va être, on va pouvoir regarder SmackDown en se disant, ah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, voilà. Bon, je dirais que si je devais mettre un petite pièce, ça serait peut-être tenter le coup Roman Reigns. Ça serait une révolution, Roman Reigns. À SmackDown, non, c'est, je suis quasiment certain que ça n'est jamais arrivé.
Oui, moi de mémoire, je suis d'accord avec toi, je confirme. Hein. Moi, je pense que ça peut être courageux déjà pour relancer s'il faut que SmackDown ait aussi du gros powerhouse. Et puis, mine de rien, on est quand même un peu sur un retour, un mec convalescent, un gars qui a quand même une carrière, voilà, un peu sur le fil du rasoir avec la foule. Donc SmackDown, ça peut être une Ça peut être une bonne place, et puis si ça nous donne un Roman Reigns, Daniel Bryan, moi je veux bien, hein, par exemple, ce genre de choses.
Ah ouais, non, mais ça peut annoncer des belles affiches.
Ouais, écoute, non, on...
Raw ce soir ou lundi soir a été gâté par des belles pioches, quoi, pour moi. Hein, je suis convaincu que Andrade, The Miz, Mysterio, les Uso, tout ça, c'est de la bonne pioche. Allez, ouais. Les confirmations avec Black, Ricochet, tout ça. Mais je pense que dans l'autre sens aussi, SmackDown ne va pas être perdant dans l'affaire. Puis si tu veux, je pense qu'il y a quand même, là c'est un point de vue business, mais la WWE, elle a ce contrat avec la Fox, là, et
ouais.
Il n'est certainement pas question pour eux que SmackDown soit dévalué, quoi, tu vois.
Non, et on peut limite, j'ai pas pensé, mais il y aura même des montées de NXT qui vont peut-être... aussi à SmackDown, nous faire de la bonne surprise. Hein. Tu peux parler de Buddy Murphy, ça pourrait être une belle acquisition.
Buddy Murphy, oui, ça pourrait être aussi dans le roster de SmackDown. Je pense que ça aurait relativement de la gueule, quoi.
Ouais.
Donc, non, ils ont, là, ils, je pense qu'ils ont ouvert des, ils ont pisse sur pas mal de choses différentes, mais c'est plutôt intéressant. Si tu veux, moi, pour le coup, ça m'intéresse ce check-up.
Et allez, on va faire un dernier pronostic. Qui pourrait être la tag team de Paige, d'après toi?
Ah là 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 là. Bon, écoute, je vais donner le truc le plus... Bah, pour l'instant, ça serait Kairi Sane et...
Yoshirai.
Yoshirai. Allez, ça serait, ouais. Ça serait les japonaises. Mais
ouais, je pensais à ça.
Que y a pas... Est-ce qu'il ne va pas nous sortir un truc de derrière les fagots? Je pense à des catcheuses britanniques, peut-être avec Rhea Ripley, peut-être avec, tu vois, il y avait un truc, des combinaisons comme ça, peut-être, mais bon.
Ah oui.
Et puis NXT, on les a, je ne sais pas trop. Moi, pour moi, ouais, Kairi Sane et Yoshirai me paraissent quand même être dans la starting list, en tout cas,
pour ça. Et une idée en un dans l'autre, tu parles de britannique, moi du coup ça me fait penser que Pete Dunne pourrait être un très gros nom pour SmackDown aussi.
Ah ouais, Pete Dunne, ah, écoute, j'avais pas pensé à Pete Dunne, effectivement. Pete Dunne pourrait tout à fait débarquer aussi à SmackDown, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Bon, surtout, écoute,
Raw a eu plusieurs gars de NXT, du côté de SmackDown, t'as eu le 205 Live avec l'arrivée d'Ali, ouais. Mais du côté de NXT, on a eu les Heavy Machinery. Qui d'autre?
Nikki Cross, ouais.
Nikki Cross, ouais, mais qui est toujours pas officiellement déclaré
à Raw
à SmackDown, mais donc qui vraisemblablement devrait être à SmackDown. Du coup, ouais. Ah, ça va être intéressant. Je suis pressé de me regarder. Sachez que à l'heure où on enregistre là, on n'a pas encore vu SmackDown. Donc c'est pour ça qu'on se permet toutes ces supputations.
Eh oui, d'ailleurs, t'as raison, on va peut-être y mettre fin parce que vous qui nous écoutez, vous savez peut-être déjà tout ce qui va se passer à SmackDown, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à pronostiquer vous aussi les transferts qu'il pourrait y avoir entre les deux shows, ça nous laisse le temps de rêver pendant quelques heures encore. En attendant, nous on va passer au mot de la fin, hein. Chris, je te laisse nous citer en premier ton top, ton flop et ta note pour l'Euro de ce soir, je t'écoute.
Eh ben écoute, mon top, il va être au fait que ce check-up, ça m'intéresse, que ça a été plutôt bien géré à Raw, qu'il y a quelques bonnes pioches, et que du coup, bah ce Raw check-up m'a plutôt bien diverti, c'est plutôt pas mal.
Très bien.
Ça fait longtemps que j'avais pas passé un bon Raw comme ça. Nous avons eu plusieurs shows rouges difficiles entre janvier et avril, là, donc du coup, écoute, ça faisait plutôt plaisir, on a eu beaucoup de tag team division. Ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Le titre intercontinental était là. Il y a une belle feud qui s'annonce avec Andrade et Baylor. Donc, du coup, le contenu du Raw m'a plutôt bien satisfait. Mon flop, je vais donner flop, même si le show m'a plutôt satisfait. Je vais donner un flop. Alors, j'hésitais entre Lars Sullivan et Sullivan. Parce que c'est pas intéressant comment c'est géré, parce que le gars, pour l'instant, c'est pas ça, et pour l'instant, ça arrive pas à accrocher. Donc le flop, je le donne à Lars Sullivan. On en reparlera dans quelques lundis. Je lui donne le bénéfice du doute, et même pas du doute, en fait, je lui donne le bénéfice de l'attente. Le catch, ça se construise pas en 2-3 lundis, donc on comprend bien que pour un mec qui débarque dans le main roster comme ça, c'est pas évident. J'essaie toujours d'avoir un peu d'indulgence pour les catcheurs qui arrivent, quoi. Même quand je les apprécie pas plus que ça au départ. Donc écoute, voilà, je mets mon flop parce que
c'est tout à fait logique, effectivement.
Parce qu'il y est pas, pour l'instant ça y est pas. Voilà. Et ma note, écoute, je vais mettre un 3,5.
Eh ben, on se rejoint parfaitement au niveau de la note, puisque 3,5, c'est ce que j'avais noté aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de moments ennuyeux en fait dans ce Raw. Il n'y a pas eu de moment où on s'est tenu la tête en se disant mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est un check-up, on a eu pas mal de... Ils savent bien faire ces moments où le public pop, hein, quand il y a un mec qui arrive, un nouveau, le Miz, Andrade, tout ça. Donc c'était plutôt pas mal. Mon top, je le mets à Andrade contre Baylor. C'était vraiment le match de la soirée. C'est le seul vrai match en solo de la soirée, mais c'était très bon et ça me donne vraiment envie d'en voir plus. Au niveau du flop, ben, je pourrais en parler longtemps, mais ça va être l'annonce que Eric Young arrive tout seul, drafté discret, comme ça, en dernier de liste, un peu comme un Heath Slater. Alors, là aussi, comme toi, bénéfice du doute, peut-être qu'il va faire quelque chose, peut-être que de l'autre côté, à SmackDown, ça va permettre de révéler Killian Dale et je ne sais plus le nom du l'autre, mais bref. Et,
Wolf.
Oui, voilà, Wolf. J'ai pensé à Fish, mais non, Fish, c'est un Disputed Era, donc... Wolf et Fish, ça se ressemblait un peu. Bref, ouais, Eric Young, un peu déçu quand même. Moi, je me souviens de l'époque NXT où ces gars-là me plaisaient beaucoup. Je me souviens quand la WWE a mis sur YouTube leur musique d'entrée, les commentaires, il y avait plein de gars qui disaient « Ouais, imaginez quand ça sera à WrestleMania, là, les hélicoptères, le bruit, tout ça. » Enfin, bon, écoute, est-ce que Sanity est morte ? Ça a l'air bien parti. Moi, je voulais voir ces gars-là contre le Shield, je voulais voir ces gars-là contre les Wyatt, ça me semblait... Bon, tant pis, encore un rendez-vous raté, mais bon, globalement, bon show, donc on va passer à autre chose et on verra ce que donnera SmackDown.
Voilà.
Bon, bah écoute, Chris, ça a été un plaisir d'être à nouveau avec toi pour ce Monday Night Raw. Hein. On commence à être l'équipe efficace du mardi. On va laisser nos copains faire du bon boulot pour SmackDown. Et merci à toi.
Et puis ça a fait plaisir de reviewer un show un peu... C'est sympa. Alors... C'est sympa d'avoir des surprises, d'avoir un peu... Voilà, on connaît bien tout le roster, etc. Mais donc, du coup, bah, ce mouvement entre Raw et SmackDown, ça met du piment dans cette saison.
Mais ouais, on verra bien. C'est le moment où on peut avoir tous les espoirs, et puis après, dans deux mois, ils seront ruinés, mais c'est pas grave.
Oui, c'est pas grave, c'est l'éternel recommencement.
C'est ça. Bon, écoutez, pour vous autres, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce shake-up, sur ce Raw de la nouvelle saison. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà pris vos billets pour WrestleMania 36. Bon, c'est pas possible encore, mais si vous pensez y aller. Vous pouvez nous suivre comme d'hab sur Spotify, sur PodCloud, sur iTunes, sur YouTube. Je crois qu'on a été vraiment pas mal écoutés pour nos analyses de WrestleMania, donc ça fait plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous. N'hésitez pas à interagir avec nous, on a aussi Facebook, Twitter et Instagram pour les plus jeunes. On n'a pas encore de Snapchat, mais on va s'y mettre. Je pense pas en vrai, mais c'est pas grave. Et puis voilà, ben, je vous dis merci à toutes et à tous de votre attention. Puis ben, à bientôt. Bonne semaine pleine de catch. Ciao.
Salut à tous. Salut les auditeurs. Salut peuple de catch-up. Salut Rafa. Et puis à bientôt pour Monday Night Raw.